Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Bonjour à tous et bienvenue dans Paraculte, donc c'est le podcast de pop culture dans lequel vous parle de trucs qui nous ont plu. Et qui ça nous? Eh ben moi, Guillaume Poggiaspala, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir et même l'honneur hein, d'accueillir avec moi Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme Scientifique. Comment vas-tu Jean-Michel?
Bien, mais bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité pour parler de cet animé. Juste pour préciser aux auditeurs la raison pour laquelle Guillaume, qui est un ami à toi, t'as suggéré de m'inviter. C'est pas tellement parce que je fais Scepticisme Scientifique, qui est un podcast sur la zététique, mais c'est surtout parce que dans la vraie vie, quand je suis pas podcasteur, je suis professeur de japonais et j'ai habité 4 ans et demi au Japon et j'y retourne régulièrement. Enfin, évidemment, mon épouse est japonaise, etc.
Oui, effectivement, c'est vrai. Après, bon, ton podcast est un classique, c'est un incontournable. Hein. Tu sais, il a commencé en juin 2009, j'ai vérifié, et il compte aujourd'hui pas moins de 494 épisodes. Donc, c'est vrai que pour être totalement honnête, je suis un petit peu intimidé ce soir, hein, parce que je suis familier de ta voix depuis une petite dizaine d'années, depuis 2011 ou 2012, je sais plus précisément, hein, mais ton podcast est un des premiers que j'ai écouté avant d'en faire moi-même. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'aurais pas imaginé avoir l'occasion de discuter avec toi comme ça. Directement. Donc oui, ça me met un petit peu dans la position de la groupie de BTS, hein, je sais, mais ça va être un petit peu comme ça ce soir. Je dis ce soir parce qu'on enregistre le soir, mais bien sûr, bon, voilà, c'est quand vous voulez, en tout cas, c'est vrai, de quoi on va discuter précisément. Oui, tu as parlé d'un animé, et on va parler d'Agretsuko, qui est une série animée, donc qui a pour le moment 3 saisons, et qui est produite par Sanrio, donc oui, la boîte qui fait Hello Kitty. En fait, j'ai découvert qu'il faisait aussi plein d'autres trucs, hein, comme Kelopi, My Melody, voilà, des persos qui sont ultra connus, mais ultra connus au Japon. Voilà, c'est vrai que ta présence ici, effectivement, t'as pas beaucoup de rapport avec la science ce soir. C'est le fait que tu es prof de japonais et que ouais, tu connais ça évidemment très très bien, je l'ai dit forcément, beaucoup mieux que moi, donc forcément c'est une chance de t'avoir. Et bon, Agretsuko, donc, il se présente comme un animé tout mignon, voilà, avec des persos animaux tout craquinous, dessinés dans le style donc épuré Hello Kitty, hein, donc à tel point d'ailleurs que ça peut rebuter d'ailleurs. Je sais pas si toi, ça t'a accroché au début, peut-être que tu pensais que c'était pas exactement ce que c'est.
Ouais, j'ai été voir des critiques avant, donc oui, juste pour être tout à fait honnête, j'avais pas regardé avant que tu m'en parles, et ouais, j'ai été voir ce que c'était en me disant c'est quoi, parce que le titre est pas très explicite, on va en reparler après, mais ouais, donc oui, j'ai découvert que c'était une série un peu faussement donc kawaii, mignonne, plutôt, en fait finalement c'est un peu le trip, en moins trash, mais de South Park, quoi, d'avoir une animation très enfantine et des thèmes très adultes dedans, hein.
C'est ça, ouais, le contraste entre la forme et le fond, c'est vraiment un des premiers attraits de la série. Parce que c'est vrai que le propos n'est pas précisément enfantin, puisqu'on y suit Retsuko, qui est une jeune femme. C'est un jeune panda roux, en fait. Et elle, voilà, ce panda vient de rentrer dans la vie active, donc elle prend son premier poste dans une grosse boîte. Elle emploie un bureau assez lambda, en fait, hein, et puis bon, on va suivre la vie d'une salarié woman, tout simplement, enfin d'une salarié panda. Et le perso et tous ses collègues sont des animaux, d'ailleurs. Hein. Donc il y a Feneko, sa collaboratrice, qui est sa copine, il y a Kabae, la pipelette. Il y a Tsubone, sa collègue misogyne, Goli et Washimi, deux cadres supérieurs très populaires, hein, qui vont devenir ses amis. Et il y a Tsunoda aussi, qui est très porté sur l'apparence, parce que bah, voilà, c'est ce qu'elle a trouvé de mieux pour survivre au bureau, parce que la vie au bureau, bah, c'est impitoyable. Hein. Le chef Ton est c'est un énorme cochon qui va lui mener la vie dure, Retsuko, très dure. Et donc il sera aidé par son capot, hein, le mielleux Komiya, pour ce qui ressemblerait presque à un très long bizutage, hein, voilà, c'est la plus jeune, donc elle va en baver apparemment. Est-ce que c'est vraiment ce genre de truc? Tu confirmes que c'est vraiment, ça se passe souvent comme ça?
Ah oui, ce qui est génial pour la série, c'est que c'est le Japon, c'est vraiment le Japon dans toute sa splendeur. Les gens adorent le Japon, mais se travailler dans une entreprise japonaise, c'est quelque chose que je ne voudrais certainement pas faire. En tout cas, ça m'a évoqué beaucoup de souvenirs, parce que moi, je n'ai pas travaillé dans une entreprise, j'ai travaillé dans des écoles privées. diverses et variées. Même moi-même, j'avais même dans de l'enseignement, la relation avec le boss, etc. Est exactement comme ça se passe là. C'est assez marrant. J'ai envie de dire, il caricature à peine, pratiquement pas, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Juste pour revenir sur le titre, c'est vrai que c'est Agretsuko, c'est assez bizarre parce que je me disais, c'est quoi ce machin? Mais en fait, ça vient de Agreshibu Retsuko. Donc, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont contracté en anglais et en français, parce qu'en japonais, c'est le mot non contracté. Si tu veux, le titre anglais français, Agretsuko, est une contraction, une abréviation du titre original japonais. Pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas pourquoi, parce que ça rend le titre encore plus mystérieux que la version japonaise, mais Agreshibu Retsuko, c'est donc Retsuko, c'est le nom du personnage du Pandaru là, et Agreshibu, donc c'est, elle est agressive, hein. Enfin non, elle est pas du tout agressive en fait dans la vraie vie, mais tout ça je suppose que tu vas l'expliquer aux auditeurs. C'est vrai qu'elle a un loisir sur le côté. Et alors le Retsuko, c'est un jeu de mots sur c'est un prénom qui n'existe pas en japonais, comme la plupart des prénoms de la série. Mais ça fait penser à Natsuko, des choses comme ça. Mais ça commence par un re comme Resa Panda. Donc Resa Panda, c'est un panda roux. Donc c'est parce qu'en fait, elle est un panda roux. Donc ils ont modifié son nom. La plupart des noms ressemblent évoquent l'animal qu'ils sont dans le dessin animé.
Oui. Mais on va en parler plus précisément parce que en fait, j'avais fait des recherches avant même de savoir que tu allais participer. J'avais fait des recherches sur les noms un petit peu. Et j'avais cherché, trouvé quelques petits trucs. Et tu vas pouvoir comme ça me dire si je suis parti dans le décor déjà et puis aussi apporter des précisions. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément de jeux de mots. Alors comme tu dis, effectivement, il y a toute une vie de bureau. Elle a plein de gens et elle a plein de gens sur qui se reposer aussi, en fait. Hein, il y a Haida, par exemple, qui est salaryman moyen, en fait, plus ou moins, qui flash rapidement sur elle, sans oser lui avouer. Et la première saison, finalement, c'est une peinture assez, donc, c'est vrai, étonnamment réaliste, hein, des rapports sociaux en entreprise au Japon. C'est vrai qu'on peut penser aussi à Stupeur et Tremblement, ça fait inévitablement penser à ce roman aussi. Alors vous me direz, j'ai jamais été dans cette situation, mais toi au moins, qui es un expert, tu nous le rappelles. Et c'est vrai que toute cette pression, Retsuko la soulage à un seul endroit, c'est son jardin secret un petit peu elle, qui est le karaoké, et elle y chante du death metal, donc c'est autre contraste, hein, dans le contraste vis-à-vis de la personnalité qui est extrêmement polissée à la ville, hein, de Retsuko, c'est vraiment une fille modèle. Et d'ailleurs sa voix quand elle chante du death metal, c'est celle de Harecho, qui est le scénariste et créateur de la série. Et donc, Agretsuko traite du harcèlement au travail, et ça va bien au-delà, hein, de la société japonaise dans son ensemble. Donc, la place des femmes comme Retsuko, ou comme Gori, ou Iwashimi, par exemple, c'est working girls qui ont des succès professionnels, hein, mais à quel prix? C'est vrai qu'au Japon, c'est apparemment très difficile pour une femme d'avoir à la fois une vie familiale et une vie professionnelle accomplie.
Oui, enfin, c'est hautement découragé. Hein. C'est vrai que je dis souvent, ils ont 50 ans de retard sur les progrès sociaux au Japon. Hein. Si une femme demande annonce à son patron qu'elle va se marier, il va lui demander quand elle donnera sa lettre de démission. Hein. C'est le mariage et c'est ce que montre très bien la série d'ailleurs. De manière, puisqu'elle envisage de se marier pour quitter l'entreprise. Et inversement, on voit des collègues féminines qui sont beaucoup plus avancées dans l'entreprise, mais qui ont clairement pas de vie de famille. Enfin, donc ils montrent de manière. D'ailleurs, je me suis dit en regardant la série, je vais demander à mes élèves de la regarder parce que c'est une tellement belle description de la société japonaise. Ça va être assez bizarre de voir les Japonais qui regardent ça parce que ça pour eux ça doit montrer tous les mais ils en sont conscients évidemment. Et c'est pas comme Retsuko, on a conscience d'ailleurs dans la série. Elle sait très bien que c'est de la misogynie du harcèlement au travail, etc. C'est pas comme s'ils étaient et ils peuvent pas y faire grand chose, quoi.
Ben c'est vrai que donc Retsuko est célibataire, Gori et Washimi aussi, elles sont célibataires, on le voit d'ailleurs. On les suit donc sur 3 saisons, on voit donc plein d'aspects. Effectivement, elles sont toutes célibataires quasiment, sauf Kabae, je crois. Enfin, en tous les cas, voilà, il y a énormément de problèmes. Enfin, disons, les relations amoureuses donc sont traitées aussi. Hein. Retsuko va avoir un parcours sentimental qui va être quand même assez mouvementé. Et donc, c'est vrai que c'est l'occasion aussi d'aborder les relations intimes au Japon, qui ne sont pas toujours faciles. Alors, c'est surtout dans la saison 2, en vrai, que tu vois ça. Donc, la saison 2 a une thématique très tech, puisqu'il y a l'arc de Tadano, qui est donc le jeune bourricot, là, qui ressemble fort à un chômeur au premier abord. Est-ce que tu as vu la saison 2 ?
Oui, de toute façon, je l'ai vu, oui.
D'accord, donc tu vois, effectivement, il y a, donc la saison 2 porte plutôt sur l'aspect sentimental, la saison 3 sur les médias aussi, le monde du showbiz. et les idols. Et finalement, la constante de la série, c'est pour Etsuko, c'est cette difficulté d'être, quoi. C'est-à-dire d'être ce que la société attend d'elle, ce que sa famille attend d'elle, ce que son boulot attend d'elle, ce que son conjoint, son amoureux du moment attend d'elle, et finalement ce qu'elle-même attend d'elle, parce que c'est pas forcément si facile de reconnaître ce qu'on veut vraiment, de le rendre compatible avec le principe de réalité. Donc c'est vrai qu'Agretsuko, ça s'ancre totalement dans la société japonaise contemporaine, hein. Les destins de ces personnages sont quand même... Enfin, ça résonne, si tu veux, quand même beaucoup plus de similitudes que de différences avec, avec nos propres problèmes, j'ai l'impression, quand même.
Oui, bien sûr, oui, c'est clair que... Ça, c'est... Je ne dis pas du tout que ce genre de problème n'existe pas chez nous, mais c'est vrai qu'ils sont amplifiés, exagérés au Japon oui, comme je le disais... Un retard énorme dans les progrès sociaux. Hein. C'est vrai que quand on fait des études sur le sexisme au Japon, je crois qu'ils sont, il y a des études qui chaque année qui sortent, qui sont classées dans les pays les moins bons du monde. C'est assez hallucinant pour une nation qui est la troisième nation la plus riche au monde après les États-Unis et la Chine. Hein, mais oui, juste pour revenir sur le karaoké, parce qu'évidemment, peut-être les gens qui nous écoutent, qui sont pas des fans du Japon, peut-être, ce qu'elle fait, c'est Hitokara, hein, donc c'est aller toute seule au karaoké, hein, Hito, c'est tout seul, enfin, Hitotsu, c'est une personne, et Kara. Moi, je faisais ça au Japon, c'est marrant, parce qu'on s'imagine pas faire ça chez nous, enfin, le karaoké au Japon et le karaoké en Belgique, c'est très différent. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais fait de karaoké en Belgique, mais bon, l'image du karaoké en Occident, c'est tu es dans un café, puis tu te lèves et tu dois chanter devant des inconnus, etc. Mais au Japon, c'est dans des box. Et tu peux effectivement, normalement, tu vas dans un petit groupe, généralement, max 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Ça peut être des groupes plus grands, mais généralement, ça va être des groupes assez petits. Mais on peut y aller tout seul. Quand moi, je donnais cours là-bas, j'avais un élève d'une soixantaine d'années, et après mon cours, le lundi, il allait systématiquement faire Hitokara, aller chanter tout seul. Donc ça se fait, oui. Il le montre vraiment très bien dans l'animé, on mange en même temps et tout. Moi, je suis un très grand fan du karaoké japonais. Hein, j'emmène toujours mes élèves quand je fais un voyage scolaire. Je découvre qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça et qui n'aiment pas chanter en public. Mais par exemple,
moi, effectivement, je suis allé au karaoké, j'ai pas osé chanter. C'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu difficile, mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'y aller seul, parce que finalement, t'y vas vraiment pour toi, quoi, en réalité. C'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'avais pas fait le rapprochement, parce que Retsuko, elle y va pour chanter du death metal, ce qui colle pas avec sa personnalité, ce qui est peut-être mal vu, parce que c'est peut-être trop agressif, surtout pour une femme. Mais c'est vrai que si les gens, enfin, y aller seul, c'est vraiment pour soi, quoi. C'est un instant pour être seul, je sais pas, sans pression sociale.
Ouais, c'est ça. Moi, je crois que, enfin, c'est vraiment, quand on y songe un petit peu plus, on se rend compte que pourquoi pas. Si on est fan de musique, bah, tu peux choisir les morceaux que tu veux sans avoir à te préoccuper de l'image que tu vas projeter, sans avoir besoin de, voilà, tu peux chanter, je sais pas, un chanteur pop ou une chanteuse pop, sans te dire, oh, mes copains vont me trouver ringard si je chante ça. Parce que ça peut quand même apparaître quand on est avec d'autres personnes dans le. Et voilà, si on est timide, c'est pas parce qu'on est. C'est pas mon cas, hein. Moi j'y vais, je suis toujours le premier qui attaque, et j'ai pas besoin d'alcool pour chanter, alors que beaucoup de gens ont besoin d'alcool. Mais moi je prends le truc le plus ringard qu'on puisse trouver, j'attaque avec Britney Spears et les Backstreet Boys, et c'est bon. j'ai pas d'inhibition de ce côté-là, je trouve ça juste fun le karaoké. Mais en fait, finalement, c'est fun d'être tout seul. Et donc, oui, pour des Japonais qui sont timides, ou n'importe qui est timide, ça permet d'aller chanter ce qu'il a envie. Pour te donner une idée, moi, en fait, la raison pour laquelle, c'était pas parce que j'étais timide, puisque comme je viens de le dire, c'est pas du tout mon cas. Mais mon problème, c'est qu'à l'époque, j'apprenais le japonais. J'étais pas aussi bon que maintenant. Et donc, bah, au départ, forcément, comme je viens de le dire, j'allais au karaoké avec mes amis japonais et je chantais principalement en anglais, puisque il faut pouvoir lire, évidemment, ce qui est écrit à l'écran pour être capable de chanter. Souvent c'est hiragana, mais parfois il y a quand même des kanji qui vont apparaître, des sinogrammes, hein. Donc ça peut être un peu challenge pour lire, et donc en fait moi j'y allais simplement pour préparer mon répertoire de chansons japonaises, hein. Comme ça je pouvais voir ce que j'étais capable de chanter sans trop bafouiller, parce que j'arrivais pas à lire vraiment bien ce qui était à l'écran, en fait. Ouais, donc c'est vraiment fun. Elle fait ça aussi pour pouvoir se défouler, voilà, chanter seule, en fait. Moi je trouve ça cool.
Et justement, en tant que femme, est-ce que c'est plus mal vu, ou est-ce que... Parce que c'est vrai que, pour revenir un tout petit peu là-dessus, est-ce que c'est vrai que donc il y a certains retards, on va dire, sociétal peut-être, mais est-ce que tu penses qu'il y a une évolution? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens, même si ça y va doucement, lentement?
Oh, ça c'est compliqué à répondre.
Est-ce qu'il y a des petites évolutions, quoi, je ne sais pas, par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, tu vois?
Souvent, le gouvernement fait des effets d'annonce. Hein. Ils disent qu'ils vont faire des choses, mais c'est un gouvernement qui est très à droite. Et, je crois qu'ils ne savent pas très bien comment s'y prendre, en fait. Et, moi, j'ai l'impression que c'est relativement stagnant, mais enfin, bon, il y a quand même... Ouais. Et puis même les Japonais, en dehors du gouvernement, qui voudraient activement faire ça, changer les choses, bah, au niveau, ils ont moins une culture de la militance sociale. Enfin, il y a quand même des militants au Japon, mais manifester, etc. Enfin, c'est une autre culture pour ce genre de choses. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que ça... Oui, on va dire que ça change, mais vraiment, vraiment très lentement.
Moi, j'ai souvenir de cet épisode, c'était l'année dernière, où des femmes s'étaient révoltées avec les talons hauts. Tu te souviens de cet épisode?
Non, ça ne me dit rien, celui-là.
Et il me semble, alors peut-être je dis une bêtise parce que ça vient de me revenir, mais j'avais eu, c'était un truc d'actualité où des femmes avaient, je crois que c'était, elles refusaient de porter des talons, alors que les talons faisaient partie plus ou moins de manière implicite ou obligée de l'uniforme de l'entreprise, quoi. Et en fait, voilà, les femmes doivent s'habiller comme ça, en talons hauts, en tailleur, etc. Et donc, c'est une sorte de diktat, même s'il est marqué nulle part, c'est une sorte de diktat comme ça qui existe. Et donc, il y avait eu des mouvements de protestation assez étonnants pour le Japon, même si effectivement, ça paraît, voilà, tu vois, tu t'habilles comme tu veux. Bon, apparemment, non. La pression sociale est très importante au Japon, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus marquant, si tu veux, ce genre d'épisode. Il faudra que je retrouve.
Oui, c'est ça, en fait, aussi, est-ce que ça bouge? Oui, parfois, on a l'impression que ça bouge, mais ils partent de tellement loin. Pour donner un exemple, quelque chose qui avait fait beaucoup parler sur Twitter, justement, c'était sur le Twitter japonais, c'était que des élèves dans le secondaire étaient obligés, qui avaient les cheveux brun clair, en tout cas pas assez foncés dans les lycées, les professeurs, les enseignants, le corps professoral leur demandaient de se teindre les cheveux pour être plus fondus dans la masse. Donc, elles n'avaient pas la bonne teinte de brun. Et alors, il y avait une élève qui avait eu du mal. Elle n'arrivait pas à se teindre les cheveux convenablement. Et si mes souvenirs sont bons, elle avait été renvoyée de l'école finalement parce que donc ses couleurs de cheveux n'étaient pas suffisamment brunes pour l'uniformisation du... Elle était trop différente des autres élèves. Et donc, il y avait des idoles justement qui avaient sur Twitter qui avaient rapporté avoir vécu la même chose, donc des jeunes femmes japonaises. Et du coup, ça avait fait beaucoup de bruit sur Twitter. Mais donc... En disant que c'était inacceptable de la part des écoles d'obliger les élèves qui ont les cheveux bruns clairs à se teindre les cheveux en brun foncé pour s'harmoniser avec en cheveux noirs plutôt, pour s'harmoniser avec le reste de la classe. Donc, oui, voilà, ça a bougé. Mais quand on se dit qu'ils partent d'aussi loin, c'est en termes de pression sociale et de. Ils ont fait des progrès de ce côté-là. Il y a un mouvement social pour interdire aux écoles d'atteindre les filles de demander aux filles qui n'ont pas les cheveux assez noirs de se les teindre. Mais voilà. C'est là qu'on est.
Ouais, je vois. Ben, je sais pas, MeToo a atteint le Japon quand même aussi, je suppose. J'imagine.
Oui, ça, c'est vrai que ça a commencé là-bas, mais ça n'a pas. Ouais. Enfin bon, après, je ne suis pas non plus un spécialiste de cette problématique sur le Japon, mais j'ai l'impression toujours que ça n'a certainement pas l'ampleur que ça peut avoir chez nous ou l'impact que ça a chez nous.
Ouais, j'imagine. Non, mais ça, ouais. On imagine bien. Ouais. Bon, Agretsuko, pour revenir un petit peu à Agretsuko, c'est un animé donc qui est faussement innocent hein, sur la difficulté de trouver sa place hein, finalement dans la société japonaise, mais aussi au sens beaucoup plus large. Hein. Mais bon, rassurez-vous, c'est aussi marrant et c'est marrant et musical. Et parce que maintenant, Retsuko se lâche sur des death metal bien brutales hein, au karaoké, et en plein milieu d'un moment pénible, en fait, elle se lâche et elle libère donc cette agressive Retsuko, cette partie d'elle-même complètement honnête finalement, et un peu effrayante, hein, qui donne son titre à la série. Et c'est peut-être, oui, effectivement, le moment de parler du nom des persos, qui sont plein de blagues. Alors, avant ça, c'est vrai qu'il faut peut-être faire un point ultra rapide, mais vraiment ultra rapide sur l'écriture japonaise. Je peux m'y essayer, ou tu peux évidemment le faire, hein, Jean-Michel, comme tu veux.
Ouais, enfin, de quoi tu voudrais parler exactement sur ce point-là?
Le truc, c'est que les kanji peuvent avoir plusieurs sens, plusieurs sons, et on les utilise à la fois comme symbole phonétique et comme porteur de sens. Et voilà quoi, donc c'est. Mais en plus, il y a les hiragana, on a un alphabet, et les japonais, ils ont trois en gros alphabets, donc, dont un qui a des milliers de signes. Donc les deux premiers en 46 symboles, c'est des sons, ils n'ont pas de sens particulier. Comme les lettres de l'alphabet, hein. Mais là c'est pour les syllabes, et le troisième, c'est les kanji, ce sont des idéogrammes qui sont importés de Chine, et eux ils portent des sens et aussi des sons. Donc c'est un petit dessin, mais donc ça a un son, mais ça a aussi plusieurs, enfin ça a plusieurs sons et éventuellement plusieurs sens selon le contexte. Donc en gros, un truc écrit en kanji peut se lire de plein de manières différentes, et un mot peut phonétiquement s'écrire avec plein de kanji différents. Donc t'imagines les possibilités de blagues en fait, c'est ça. Les Japonais adorent les jeux de mots parce qu'ils ont une langue qui est construite exprès en fait pour faire des blagues presque.
Et surtout, ça explicite bien la difficulté de traduire la poésie japonaise. Parce que, évidemment, une autre façon de le dire, c'est qu'ils ont un niveau supplémentaire qui est la graphie des sinogrammes qui est porteuse de sens, comme tu l'as dit, et donc qui est souvent intraduisible en français, c'est vrai, puisque nous, on peut pas charger de sens les lettres qu'on utilise. Les lettres, elles sont purement des sons. Donc, c'est vrai que ça rend souvent la traduction. Oui, enfin, pour donner avec un exemple que tous les adultes qui écoutent Dragon Ball, hein, c'est vrai que San Gohan, Gohan, ça évoque un repas. Alors, c'est pas écrit comme ça en kanji. Une fois, j'avais été vérifié il y a longtemps, de mémoire. Mais San Gohan, donc c'est le film de Sangoku pour ceux qui connaissent pas le Dragon Ball bien. Et donc, évidemment, Gohan, ça veut dire un repas en japonais. Ou un bol de riz, et san ça veut dire 3, donc ça donne l'impression qu'il est en train d'appeler son fils troisième bol de riz ou troisième repas. Évidemment, Sangoku adore manger. Maintenant, les idéogrammes, c'est pas à ça que ça correspond, évidemment, mais comme tu l'as dit, au niveau phonétique, c'est à ça que ça ressemble.
Et oui, mais dans Gretsuko, il y a des choses qui sont assez subtiles, en fait. Alors, j'ai fait quelques recherches et des Jisho, hein, parce que j'étais pas sûr que tu viendrais, donc je me suis rabattu sur Jisho, donc le gros de Kilodex dictionnaire en ligne, évidemment. Sinon, je t'aurais laissé faire le boulot, tu penses. Mais bon, maintenant, j'ai la pression, du coup. Donc, si on commence par Retsuko, Retsuko, en fait, c'est un prénom féminin courant, mais le plus souvent, j'ai l'impression, hein, Retsuko, c'est écrit Retsuko, alors ko, ça veut dire petit, et la partie Retsu, ça s'écrit avec un kanji qui veut dire loi, régulation, contrôle. Donc, c'est l'idée d'une petite fille bien sage, quoi. C'est un petit peu ce qu'on a en France avec les Constances, les Clémences, j'ai l'impression. Et Retsuko, donc c'est vrai qu'elle est tout en contrôle, en politesse, sauf au karaoké. Alors que dans l'anime, le nom de Retsuko, il écrit avec le ko de petit, mais le premier kanji change. Et c'est une écriture possible de hage, de hagishi, qui veut dire violent, extrême, furieux, ardent. Donc c'est un kanji qu'on retrouve dans Reshin, tremblement de terre désastreux, dans Reka, incendie catastrophique, mais aussi dans Retsujo, qui veut dire héroïne. Et donc l'idée, c'est, je mentionne quelque chose de fervent, tu vois, véhément, implacable. Donc c'est assez marrant parce que cette lecture chinoise Retsu, qui fait que Retsuko peut s'écrire à la fois comme petite fille polie, enfin en tout cas sonner comme petite fille polie, et petite héroïne implacable ou petit déchaînement de violence comme Retsuko ou agressive Retsuko, tu vois, c'est comme ça que j'ai compris.
Oui, et puis il y a le niveau supplémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, que Retsu, c'est donc Lesa Panda. En réalité, tout
en
ce
plus,
que tu viens
ça,
dire, en fait, un japonais. Mais après, le kanji, si mes souvenirs sont bons, c'est celui qui a donc le premier. Hein, c'est celui qui apparaît sur son front quand elle s'énerve.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça, en fait, on peut se demander, qu'est-ce que c'est ce kanji? C'est celui-là, c'est celui de tremblement de terre, incendie, tout ça.
Mais donc, je parlais avec mes amis japonais cette semaine de la série qui ne connaissaient pas en général. Mais enfin, c'est des Japonais qui habitent en Belgique, faut dire. Mais ils étaient tous en état de choc. Ce qui les faisait rire, c'est que c'était la même série, la même compagnie qui faisait Kitty-chan, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est assez marrant que ça soit eux qui le fassent. Mais oui, eux, ils étaient tous sur. Ben oui, ça vient de Lesa Panda, un panda roux. Enfin, donc il y a aussi cette blague. Mais
bon, d'accord.
Évidemment. Comme tu dis, il y a l'idée qu'elle est agressive, et en même temps, c'est pour ça qu'ils ont choisi un panda, quoi, un panda roux, qui est un animal assez populaire au Japon.
Ouais. Et bah après, les autres personnages ont aussi souvent des jeux de mots de ce type, un petit peu. Alors, je les ai pas tous, mais bon, après, il y a les évidents, comme il y a Feneko ou Gori. Ça, c'est évident, c'est Fennec et Goria. Les Japonais font très souvent des raccourcis, hein, comme le truc le plus connu, enfin, pour moi, qui me vient évidemment, c'est Famicom, hein, pour Family Computer, ou Pasokon pour Personal Computer. Et bon, après, pour Haida, c'est pareil, mais c'est demi-évident, parce que je crois que la hyène, c'est pas un animal local. Et donc, je suppose que c'est une traduction phonétique de hyena, donc hyena. Et donc, comme gori, ils ont dû le raccourcir. Ça doit venir de ça, le hai en katakana. Après, le da, je sais pas, donc ça peut être voilà, Haida, genre c'est la hyène, ou alors se rapprocher du nom Honda, peut-être, je sais pas.
Oui, je pense que souvent ils essaient de se rapprocher. C'est comme Retsuko. Hein. En tout cas, mes amis japonais me disaient que c'était pas, ça leur semblait pas être un prénom très courant, en tout cas. Hein.
Je l'ai trouvé sur Internet. Après, je peux pas dire effectivement si c'est vraiment un prénom très courant au Japon, évidemment.
Le problème souvent, c'est que dans les listes, je me suis amusé une fois à regarder ces listes. Le problème, c'est que souvent dans ces listes, ils reprennent des personnages, c'est des francophones qui les compilent sur base de noms qu'ils ont vus dans des animés. Donc, On se retrouve avec des prénoms qui n'existent pas, mais qui, justement, en dehors des animés, quoi. C'est comme si on faisait une liste de prénoms francophones et qu'on mettait Tintin dedans, parce que voilà. Mais c'est ce que ferait un japonais qui regarde des dessins animés francophones et qui compilerait une telle liste. Mais en tout cas, oui, je dis pas que ça existe pas du tout. Je n'ai pas été jusque là, mais eux, ils y voyaient directement le Pandarou. Mais oui, évidemment, ça sonne comme Natsuko ou des prénoms qui sont, de toute façon, des prénoms en ko. Même mon épouse, elle s'appelle Aiko. Hein. Ouais, donc le ko, comme tu l'as dit, ça veut dire enfant en général. Donc c'est vraiment très courant. Mais donc c'est vrai que les noms, en fait, effectivement, que dans la série, sont à la fois une combinaison généralement de l'animal, un jeu de mots entre l'animal et un nom qui ressemblerait à un nom d'humain, effectivement.
Oui, bah d'ailleurs, le directeur Tone, c'est la lecture chinoise de Bouta, qui veut dire cochon. Donc on voit bien que le même symbole peut se lire de manière différente, et donc c'est pour ça que le mec s'appelle Tone, donc.
Ouais, il voulait quand même pas l'appeler Bouta. Bouta, c'est... je travaillais en maternelle, et Bouta, c'est cochon. Quoi. Et je donnais cours d'anglais à des classes de maternelle, et Bouta, c'est l'insulte ultime quand t'as 3 ans et que tu regardes ton prof d'anglais. C'est... il m'appelait tout le temps Bouta, c'est marrant.
J'imagine, ouais.
J'imagine bien. Oui, il pouvait pas, je pense que c'était trop... comment dire, ouais. Un peu trop fort de l'appeler Bouta. C'est comme si les personnages l'insultaient chaque fois qu'ils l'appelaient. Mais Ton, évidemment, c'est la lecture. Moi, j'y parle souvent de lecture combinée, quand on combine le kanji et kendo. Et là, ça, les fans du Japon, ils connaissent peut-être le tonkatsu. Hein. Le tonkatsu, c'est un plat japonais avec du porc pané comme ça. Et donc, le ton de tonkatsu, c'est le ton du nom du chef, je sais jamais si c'est un butcho ou un shacho, enfin quel grade il a, j'ai pas fait assez attention, mais oui, enfin du chef, du supérieur de Letsuko.
c'est soit un supérieur direct, peut-être pas, parce qu'il y a l'autre aussi avant, mais en tous les cas, il y a Washimi. Bon, Washimi, c'est des kanji qui forment aigle magnifique globalement, donc bon, ça, je pense que ça va à peu près, parce que c'est un aigle dans la série. Kabae, ça vient de Kaba, hippopotame. Et le E, c'est un kanji qui veut dire entre autres gentillesse ou sagesse dans le nom, en tout cas dans ce que j'ai trouvé. Parce que je me suis évidemment basé sur les kanji qu'il y a sur Wikipédia pour les noms des personnages originaux, parce que sinon, évidemment, j'aurais pas pu deviner tout ça. Alors peut-être qu'au-delà, mais peut-être que je suis interprète, hein, c'est toujours. Il y a aussi peut-être, ça vient peut-être aussi du verbe kabaou, qui veut dire s'occuper d'eux, parce qu'en fait, dans les épisodes dans la saison 3, ça montre une facette d'elle qu'on ne soupçonnait pas au début, où elle s'occupe beaucoup de ses enfants, tout ça, être maternelle, à tel point d'ailleurs que je me demande s'ils ont commencé avec juste Hippo, et ensuite ils ont fait le rapprochement, ou si c'était prévu dès le début. Peut-être que je délire.
Oui, je ne sais pas, en fait, c'est vrai que ça pourrait... honnêtement, quand moi je regarde un animé, je me préoccupe pas tellement de l'interprétation des noms, mais c'est vrai que c'est juste marrant, ils s'amusent avec l'interprétation des noms, ouais, mais c'est pas... D'ailleurs, j'ai regardé la série avec mes enfants, parce que en fait, j'étais en train de regarder la série, et puis mes enfants, ils voient un dessin animé avec des gentils animaux, donc ils viennent voir, ce qui est assez folklorique, parce que je leur dis que c'est pas un dessin animé pour les enfants. D'ailleurs, après avoir regardé quelques épisodes avec mon fils de 9 ans, je lui ai demandé, alors quand tu seras grand, tu travailleras dans une entreprise japonaise. Il m'a dit jamais j'irai travailler au Japon. Je crois que le message est bien passé, en fait. Finalement, la Belgique, c'est pas mal, quoi.
C'est ça. Ben, c'est sûr que ça ne va pas favoriser l'immigration au Japon, hein, ce genre de truc. Hein. Ça, c'est certain.
Je pense pas non plus que ça soit une bonne chose de leur cacher. Mais c'est marrant parce que, tu sais, quand je donne cours, les élèves qui arrivent souvent en première, ben, ils ont des étoiles plein les yeux quand ils pensent au Japon. Il y en a un certain nombre, c'est des adolescents. Je donne cours en cours du soir, il y a aussi des adultes, etc. Mais les adolescents, ils ont souvent l'idée, je vais aller travailler au Japon, c'est mon rêve. Le Japon, c'est tellement mieux que la Belgique ou que la France. La France, c'est nul. c'est des choses qui sont dites ouvertement, c'est marrant. Je sais même pas, t'es en France, toi, ou t'es où?
France, oui, je suis en France.
Attention, moi, en Belgique, ils disent, bah oui, la Belgique, c'est nul, c'est ringard. Qui voudrait vivre en Belgique, mon Dieu? Au Japon, là-bas, c'est un pays où on peut faire du cosplay, et il y a des temples, et c'est beau, quoi. Mais ils se rendent pas compte de la réalité, de ce que ce serait vraiment habiter là-bas et travailler là-bas.
Pas trop le temps de profiter des temples, quoi.
Ouais, et une grande partie de mon travail, c'est de faire un peu, malheureusement, de leur casser un peu leur rêve, expliquer à quoi ça correspond réellement au Japon. Mais c'est vrai que, pour donner une idée, quand je travaillais dans une école, par exemple, j'avais, en général, par exemple, dans toutes les écoles que j'ai fait, je devais réellement prester 30 heures de cours. Donc, quand on est prof en Belgique, on donne cours dans le supérieur, on preste entre 18 et 21 heures, quoi, mais pas 30 heures effectives. Donc, ça donne déjà une idée. Ça, c'est 30 heures effectives sans la paperasserie qu'il faut faire avec, parce qu'évidemment, il faut rendre des rapports, etc. Sinon, ce ne serait pas fun, quoi. Et aussi, en termes de une des entreprises que j'ai faites, parce que souvent, quand on a un occidental, on signe des contrats occidentaux, évidemment, parce que les employeurs savent que les occidentaux refuseront de travailler comme des japonais. Et donc, j'ai eu pas mal de contrats pour occidentaux. Mais à la fin, comme j'allais me marier et qu'il fallait absolument que je trouve un travail, j'ai trouvé une compagnie qui m'a dit bah, « on veut bien vous engager, mais vous devez signer un contrat japonais ». Mais alors là, c'était ouais, donc je travaillais donc 7 jours et demi, 6 jours et demi semaine. Donc ça veut dire que j'avais droit à 2 dimanches par mois de jours de repos. Ouais, ça, c'était mon emploi du temps normal. Et il ne faut mieux pas aborder la question des jours de congé. Parce que moi,
mis à part la Golden Week, il n'y a pas quoi.
Voilà.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça donne beaucoup moins envie, hein, ça c'est certain. Il y a beau y avoir des... Mais c'est marrant que ce soit un petit animé avec des animaux qui ont des noms rigolos comme ça, qui essaient de mettre en garde un petit peu, comme, enfin mettre en garde. Ils ont montré juste la réalité, voilà, de la difficulté finalement de vivre au Japon, quoi, avec la pression sociale, quoi, que ça représente. Et c'est... On voit bien aussi, c'est vrai, le conservatisme. D'ailleurs, il y a dans la saison 2, avec Tadano, il y a aussi effectivement toute cette espèce de conflit un petit peu entre la valeur, voilà, le conservatisme et les trucs nouveaux, les trucs... c'est assez rigolo de voir tous ces trucs. Tadano, d'ailleurs... Vas-y.
Je pense qu'aussi, il ne parle pas seulement du monde de l'entreprise, il montre aussi la question des relations amoureuses au Japon, qui est vraiment super intéressante. Dans la saison 1, ils font Go-Kon, là, donc rencontre entre collègues, donc on appellerait ça un blind date. Enfin, la manière dont les relations amoureuses sont gérées, et puis évidemment, tout ce qui est quasiment...
Et puis sa mère aussi, le présente,
c'est tellement vrai, les mariages arrangés. D'ailleurs, quand mon fils a vu ça, il m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'ai dû essayer de lui expliquer c'était quoi un mariage arrangé. Mais oui, et puis il y a d'autres méthodes qui sont pas... en tout cas, là où je suis arrivé dans la série, qui ne sont pas montrées, comme là, carrément des entremetteuses, hein, des dames d'un certain âge qui vont... J'en voyais souvent dans les cafés, hein, parce qu'elles invitent elles apparaissent comme ça, des gens ensemble. Des choses qui, chez nous, n'existent pas. Hein. Pour donner des choses que moi, j'ai vécues, par exemple, je pratiquais de l'aïkido, et alors je vais avoir une collègue... une pratiquante d'aïkido ceinture noire qui va venir me voir après le cours alors que je suis en train de me changer. Et puis, elle va sortir de son portefeuille des photos. Hein, et puis, elle me montre les photos d'une jeune femme japonaise. Et puis, elle va me dire, est-ce que tu la trouves attractive? Est-ce que tu voudrais que je la présente? Si tu veux, je t'organise un rendez-vous. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce genre de choses se passent chez nous. Mais surtout, le coup de la... Voilà, c'est toujours assez bizarre. Et alors, ton boss, un des jobs principaux de mes boss, de mes directeurs d'école, c'était de m'appareiller avec des choses qui sont totalement inacceptables en Belgique. Hein, c'est hallucinant. Mais première année où je travaille, mon patron me dit... j'étais en voiture avec lui et il me dit « ça fait 3 mois que tu es là, tu es toujours célibataire ». Je dis « bah oui ». Il me fait « tu as remarqué que tes élèves, c'est des femmes ». Je dis « ouais, ça m'a pas échappé ».
Tes élèves ? Ah oui.
Ah oui, mes élèves, évidemment. Parce que c'était des adultes, hein, c'est des élèves.
Ah oui, quand même, oui, heureusement.
30 ans. Ouais, mais oui, heureusement, mais bon, t'imagines, chez nous, un directeur ferait le tiers des cas.
Oui. Non, ce serait assez mal vu, hein, ce genre de rapport un petit peu de... Oui.
J'ai eu souvent des conversations, les patrons, ils aiment beaucoup faire ça au Japon. Un deuxième patron que j'ai eu, je vais faire de ce qu'on voit beaucoup dans la série Agretsuko, de la nomination, donc la communication par l'alcool. Donc on va à l'izakaya et on boit de l'alcool avec le patron, hein, et discute. Mais alors son sujet favori, c'est « Ah bon, t'es célibataire, est-ce que t'aimes les filles ?» C'est souvent avec ça qu'il attaque. « Est-ce que tu aimes les filles ?» « Est-ce que tu aimes les filles japonaises ?» Enfin, c'est toujours très marrant la façon dont ils abordaient ça. Et ouais, le deuxième, ça a été... On était une équipe de 6, quoi, dans l'école, 6 profs, cours privé. Hein. Et alors il me fait « C'est toujours très marrant, il me fait « T'as remarqué que la prof de maths, c'est une femme ?» Je dis « Oui, ça fait 3 mois que je travaille ici, j'ai effectivement remarqué que c'était une femme. Ça ne m'a pas échappé. »
Oui, effectivement.
Et je dis, mais enfin, le patron entremetteur, c'est complètement surréaliste, quoi, qui essaie de te caser soit avec les élèves, soit avec une prof, enfin, ou avec la secrétaire. Enfin, chez nous, tout ça serait perçu comme du harcèlement sexuel.
Complètement. D'ailleurs, j'ai même lu que les patrons qui pouvaient essayer de trouver des épouses aux gens qui, aux employés qui partaient à l'étranger, par exemple, qui s'expatriaient. Ce qui est assez étonnant, enfin, je ne sais pas, c'est pour être sûr qu'ils reviennent ou je ne sais pas.
Oui, mais ça, enfin, c'est tout le problème des expatriations à l'étranger. C'est vrai que encore là, c'est pas la situation la pire, mais évidemment, ce qui se passe souvent, c'est que c'est des hommes mariés et leur patron leur dit, bon, bah, tu vas aller travailler 5 ans à Hong Kong, d'accord? Et puis l'épouse fait, bah oui, bah, je vais rester à Tokyo pour l'éducation des enfants quand même, hein. Donc le mari, voilà, il est obligé de partir à l'étranger pendant 5 ans et il verra pratiquement plus sa famille, hein, mais il n'a pas le choix. Donc voilà.
Ah, toujours, oui, t'es toujours charmant. Oui, donc les relations, oui, effectivement. Donc dans la saison 2, pas mal de relations avec donc Tadano. Et d'ailleurs, Tadano, enfin, quand Agretsuko le voit pour la première fois, il a une dégaine de chômeur. Et on sent bien que c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on sent bien que les chômeurs, les friteurs dans cette société sont vraiment pas bien vus. C'est assez compliqué. C'est-à-dire, si t'as pas de travail, t'existes pas, quoi. T'es vraiment, t'as intérêt à en trouver vite ou t'es une sorte de rebut, quoi.
Oui, c'est donc la façon dont moi je l'explique généralement, c'est qu'il y a deux types de travail. Il y a le vrai travail, donc c'est par exemple ce qu'elle fait là. Tu as dit salaryman, mais généralement salaryman, c'est pour les hommes. Hein. Elle est ce qu'on appelle OLU, donc office lady, c'est OL. Mais enfin, ça revient au même, c'est ce qu'on utilise pour des femmes. Ouais. Mais alors, donc ça, c'est les vrais travail. C'est un travail qui garantit que tu auras une retraite à la fin de ta vie. Tandis qu'il y a une autre catégorie de travail, c'est Arubaito, qui vient de l'anglais, l'allemand, pardon, Arbeit. Hein. Le mot allemand le plus charmant du monde, mais oui, parce que c'est ce qui a marqué à Auschwitz. Enfin, bref. Mais et les Arubaito, ça veut dire que tu vas, c'est ce que j'appelle, bon, c'est pas ce que je pense évidemment, mais dans la conception japonaise des choses, c'est ce que j'appelle du travail socialement dévalorisé. Hein, donc, c'est tout ce qui est pompiste, travailler dans un combini, donc une supérette, travailler dans un fast-food, tous ces jobs-là, c'est des jobs de seconde catégorie. Hein. Et souvent, ça implique que tu n'as pas vraiment de sécurité de l'emploi, que tu n'auras pas de retraite. Et que, ouais, enfin, de toute façon, si tu perds ce job-là, tu as droit à 3 mois de chômage et puis c'est fini, quoi. Donc, et donc, oui, c'est ce que tu appelais frita. Hein, c'est vraiment, donc c'est Arubaito. Je veux dire, si tu es dans cette catégorie sociale-là, si ouais, c'est vraiment une seconde catégorie de citoyens, hein, enfin, par rapport à ceux qui ont un vrai travail ici.
Et pour lesquels probablement c'est encore plus difficile de trouver une épouse, je suppose, apparemment. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué comme contexte. Je me rends compte qu'en fait, c'est vrai qu'en parlant de tout ça, on a bien cassé le trip, hein, peut-être, effectivement, des gens qui ont envie peut-être de s'expatrier au Japon. C'est un peu ce que fait Agretsuko. Alors, pas complètement quand même, hein, parce que bon, finalement, ça reste. Je trouve que ça reste quand même plutôt léger, plutôt marrant. Hein, pendant ces 3 saisons, enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui font rire, qui sont assez drôles. Et puis finalement, bon, bah voilà, elle arrive quand même plus ou moins. Je sais pas, à la fin de la saison 3, elle a quand même réussi quelque part à mûrir, quoi. Et donc, il y a même pas mal d'espoir de ce côté-là, je suppose.
Oui. Bon, c'est vrai que la série, je pense, elle tape juste, mais oui, comme tu dis, je pense pas qu'elle se veuille trop déprimante. En même temps, je pense que ça s'adresse quand même à un public vraiment japonais. Et donc, si c'était trop déprimant, t'imagines que toi-même, t'es employé, tu vis dans la société japonaise, tu vas pas regarder, hein, une série TV qui te rappelle à quel point la société dans laquelle tu vis est difficile. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Ouais, enfin, par exemple, quand elle va se défouler au karaoké, c'est vrai que, en fait, on s'identifie, on se dit, bah oui, c'est exactement comme ça. C'est vrai que je pense qu'il y a un. Est-ce qu'elle hurle? C'est ce que tous les emplois. Je sais pas, est-ce qu'on a envie d'hurler à son patron nous-mêmes? Donc, il y a un côté soulagement en regardant la série. Et le fait que, je pense que les Japonais, ils se disent, bah oui, ce que je ressens dans mon for intérieur, c'est ce que les autres sentent aussi. Hein, donc, même si c'est non dit ou quelque chose de l'implicite, hein, ils peuvent s'identifier, mais il faut pas non plus que ça soit trop désespérant, je pense, parce que sinon, voilà.
Non, mais je pense que c'est ouais, c'est exactement ça. Il faut s'identifier. Bon, c'est vrai que c'est un personnage féminin, mais finalement, ça se transpose assez bien, je pense, plus ou moins. Il y a plein de choses qui se transposent. Et donc, c'est quand même une série à voir, je pense. Donc, paradoxalement, Agretsuko, une tranche de vrai Japon. C'est assez étonnant. Donc voilà, c'est 3 saisons donc, sur Netflix. Une quatrième arrive. Hein, donc, si, j'espère qu'on vous aura donné envie de la regarder. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tu veux ou si on conclut cette émission.
Oui, juste pour terminer, je voulais quand
Vas-y.
même insister sur le sexisme, parce que c'est pas juste la pression sociale au travail, mais c'est aussi la manière dont on traite les femmes. Hein. qui est bien montré. Parce que je pense que les hommes peuvent moins, enfin, évidemment, on peut s'identifier, mais c'est intéressant que la série montre le vécu des femmes qui est quand même très différent. Donc, l'obligation de enfin, voilà, fuir, tu peux fuir ton travail en te mariant, etc. C'est quand même un point de vue très féminin sur la situation. Et, par exemple, Tom, là, le cochon, il existe toujours de l'héroïne qu'elle fasse du thé. Donc, on voit vraiment le sexisme à l'œuvre. Mais c'est une description très, très précise. Parce que, par exemple, dans les sociétés japonaises, ce qui est très typique, c'est que comme les femmes vont quitter leur travail quand elles se marient, donc en général, si elles aiment leur travail, elles vont essayer de reporter ça au plus tard. Donc, elles vont attendre d'avoir 35 ans pour être capables d'avoir encore des enfants au moment où elles vont se marier, puisque, évidemment, tu ne peux pas te marier sans avoir d'enfants, etc. Enfin, donc encore une fois, je pense pas ce que je dis. Je présente juste le point de vue du Japon sur la question. C'est vrai que parfois je parle de manière ironique, mais évidemment disclaimer, je suis pas d'accord avec tout ça évidemment. Mais donc les patrons, ils savent que les employés vont en général partir la compagnie à 35 ans, donc ça sert pas grand chose de les former convenablement et de les faire monter dans l'entreprise, puisque de toute façon elles vont partir. Donc bah, le mieux c'est de leur demander de faire du thé. Moins elles seront utiles, quoi. Enfin, c'est ça l'idée. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez. Oui, elles sont exploitées, elles font du thé. Bon, après, dans les entreprises de ce style-là, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais par exemple, dans les écoles dans lesquelles je donnais cours, souvent, j'avais une partenaire, donc il me demandait de donner cours avec un prof féminin. Et la façon dont ça se faisait, c'était que l'assistante, on appelait ça une assistante, hein, l'assistante devait préparer mes cours pour moi, puisque je prestais 30 heures par semaine, donc je n'avais pas le temps de préparer mes cours, il ne faut pas rêver. Et donc elle faisait tout mon plan et moi je devais juste l'exécuter comme un acteur, si tu veux. Et ces femmes-là qui venaient, elles préparaient tout. Mais alors elle devait être là toute la journée quand même, parce que forcément elle devait nettoyer la classe. Il fallait que ça soit propre, quoi. C'est quand même pas moi qui vais faire ça. Moi je suis un mec. Donc une fois. mais donc c'était ça. Donc elle faisait quasiment tout mon boulot à part l'exécution de la classe. Hein. Donc quand j'arrivais, j'arrivais 5 minutes à l'avance, elle me présentait. Voilà ce que tu vas voir pendant ce cours. C'est ça que tu dois faire. Suis mon plan. Et si j'avais un problème, elles étaient là en backup pour m'aider, quoi. Et ouais, sauf que la différence, c'est qu'évidemment, moi, quand je travaille au Japon, j'ai droit au salaire minimal imposé par le gouvernement pour les travailleurs étrangers, 250 000 yens, hein, donc à peu près un peu plus de 2 000 euros par mois. Ben, elle, évidemment, elle gagnait que 1 200 euros par mois, il ne faut quand même pas déconner. Non seulement elle prépare mes leçons pour moi, elle nettoie le local, etc. Et en plus, ce qui est attendu d'elle, c'est qu'elle soit contente, parce que forcément, c'est un rêve de donner cours d'anglais. Donc, elles ont rêvé de faire ça toute leur vie, donc il ne faut quand même pas qu'elles se plaignent quand même. Quoi, non, ça... enfin, voilà la situation. Donc, ça, c'est la situation que je peux témoigner dans les écoles de langue, mais je suppute que ça doit être très similaire dans les entreprises, les grandes entreprises comme ça. En tout cas, il faudrait voir si quelqu'un travaille dans ce genre d'entreprise, si le salaire est le même pour les femmes et les hommes, en tout cas dans les écoles de langue, entre professeurs étrangers et assistantes, c'est clairement pas le cas, alors qu'elles font encore du travail.
C'est vrai que c'est assez dingue. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai dit qu'on avait cassé le trip. Mais finalement, pour certains, peut-être que ça redevient une sorte de rêve, ça, d'avoir une assistante qui te fait les cours, etc. C'est vrai que c'est tellement différent et c'est tellement... bon,
quand c'est toujours le travail... truc, quand t'es pas un japonais, le Japon, c'est génial. Parce que tu n'as pas la pression sociale. L'étranger au Japon. Un étranger au Japon, en fait, on peut faire toutes les bourdes qu'on veut, etc. Bon, parfois, le patron va, mon patron hurler dessus, comme dans la série, etc., ce qui peut être un peu bizarre. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que les patrons soient habitués à ce que les employés soient, comment dire, soumis à leur colère. Tandis qu'évidemment, quand tu es directrice d'école et que tes profs sont des Américains, je peux t'assurer que les profs américains écrient aussi dans l'autre sens. Et alors, la patronne était en état de choc culturel parce qu'elle n'était pas habituée à avoir des employés.
Elle n'est pas habituée à se faire crier dessus, tu penses?
Ouais, par exemple, une situation typique, c'était elle téléphone au prof à minuit pour lui dire que le lendemain, elle a rajouté un cours à 8h du mat et qu'il faut qu'il se lève, quoi. Et ça, je peux te dire que les profs américains, ils supportaient pas. Alors, ils allaient claquer la porte chez elle, ils engueulaient la patronne en place. Mais c'est des comportements qui sont inconcevables pour des Japonais. Les Japonais ne se rebelleront pas comme ça, quoi. C'est vrai que donc pour eux, c'était assez marrant. Mais oui, mais donc, ce qu'on disait, c'est que oui, si tant que tu es un étranger au Japon, tu as les avantages sans les inconvénients, parce que tu n'as pas la pression sociale, effectivement. Tu peux te permettre de faire toutes les bourdes que tu veux.
À partir de quand est-ce qu'on t'en tient rigueur? À partir de quand tu deviens moins un gaijin?
Tu seras toujours. Au Japon, normalement, gaijin, c'est vraiment très raciste. On dit gaikokujin maintenant, mais étranger. Tu ne seras jamais un japonais. Tu n'as pas la bonne couleur de peau, il ne faut pas déconner, quoi. Donc on t'en tiendra dans l'attitude des Japonais vis-à-vis des étrangers, ça va toujours être non, allez, je grossis peut-être le trait, hein, mais il y aura, moi, mon impression, c'est qu'il y aura toujours l'attitude, bah, tu fais des bourdes sociales parce que tu maîtrises pas les conventions sociales, mais c'est pas grave, t'es qu'un étranger, c'est normal que tu peux pas maîtriser, quoi. C'est seulement génétique, hein. Si t'as pas le bon code génétique, voilà, tu peux.
Oui, normal. Donc même après 20 ans de Japon, on te considérera. Enfin, on t'en tiendra toujours par rigueur de tes boards, c'est ça qui est fabuleux.
Non, ouais, non, je pense pas. Non, faudrait poser la question à quelqu'un qui est resté toute sa vie. Mais moi, je retourne pratiquement, enfin, sauf avant le Covid, je retournais tous les 2 ans au Japon pendant passer plusieurs mois d'été là-bas. Mais je suis toujours dans cette situation-là. Hein. C'est vrai que même quelqu'un qui parle super bien japonais, etc. C'est une forme de racisme positif. Hein. On est des immigrés marrants, hein. On est cool, quoi. On a les cheveux blonds et tout ça, c'est fun, quoi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Bon, après, j'ai peut-être une vision assez pessimiste du Japon, mais je pense que ça vaut la peine aussi de la partager à tes auditeurs. Et Agretsuko la partage super bien. C'est vrai que ça montre ça. Maintenant, voilà, si t'es étranger au Japon, le Japon, c'est cool. Hein. Tout le monde est super respectueux avec toi, etc. Et toi, tu ne dois pas payer le prix social. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'il y a tellement de Japonais qui vivent en Belgique et pourquoi est-ce que mon épouse a décidé de venir en Belgique. Est-ce qu'elle aime la Belgique? Parce que la Belgique, c'est sale, il y a des cacachiens partout.
C'est vrai que ça change le Japon.
Il y a des graffitis sur les murs, ce qui n'existe pas au Japon.
Il y a de la délinquance.
Ah ouais, c'est impensable. Ouais. Pour les graffitis, quand on demande aux Japonais comment ils font pour ne pas avoir de graffitis, ils me répondent, ça me faisait toujours rire, ils me disaient. Il me dit, c'est normal, il y a un panneau qui dit s'il vous plaît, ne salissez pas le mur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de graffiti. Mais je ne suis pas sûr que chez nous, ça fonctionne, ce genre de truc. Mais en fait, non. Hein, je veux dire, mon épouse, elle n'a absolument aucune envie de retourner au Japon. Hein. La Belgique, c'est génial pour elle. Hein. Et je crois qu'Agretsuko, elle vous montre pour regarder Agretsuko et vous comprendrez pourquoi mon épouse, qui était prof d'anglais là-bas, n'a absolument aucune envie de retourner au Japon. Hein. Et en plus, ici, j'aurai une retraite à la fin de ma carrière. Hein. Tandis qu'au Japon, si tu fais. Job socialement défavorisé. Ici, j'ai droit à du chômage. Si j'arrête de travailler au Japon, c'est seulement 3 mois. Hein. Et après, tu te débrouilles, hein, tu deviens sans abri, tu vas vivre dans un manga qui ça. Enfin, voilà. Non, les Japonais qui sont ici, et qu'on les regarde et qu'on leur dit « Mais pourquoi, diable, tu voudrais retourner au Japon ?» Moi, c'est marrant parce que j'habite entre ces deux mondes, le monde des Japonais expatriés ici qui me disent ça en disant « Mais non, jamais je retournerai au Japon, ce serait l'horreur là-bas. » Et puis les élèves de Japonais qui me disent « Monsieur, le Japon, c'est le paradis sur terre, je veux aller habiter là-bas. » C'est les deux sons de cloche que j'entends, c'est vraiment funky.
Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, faire un Agretsuko, finalement... Ça va pas encourager les gens à aller au Japon. Bon, ça, voilà, tant pis. Je sais pas si les Japonais sont contents ou pas d'avoir moins d'immigration. Mais c'est vrai que finalement, ça peut aussi servir à ça. Mais les Japonais, de toute façon, ils sont, enfin, l'immigration au Japon, elle est plutôt bien accueillie, non? Puisque démographiquement, ça devrait être plutôt quelque chose de positif et de valorisé, non? Et de plus en plus.
Absolument pas. Absolument pas, les Japonais veulent absolument pas d'immigration. Là, en tout cas, ils veulent une immigration contrôlée, hautement technique. Hein. Donc, tout le plan du gouvernement, c'est d'autoriser des gens hautement qualifiés à immigrer pour une durée maximale de 5 ans. Donc, le système est conçu. D'ailleurs, moi, j'ai fait 4 ans et demi, par exemple. C'est tout. Les Japonais, en fait, alors, on rentre dans un sujet compliqué, mais souvent on dit les Japonais sont xénophobes. Moi, je dis toujours, oui, les Japonais sont racistes, mais les Belges sont tout aussi racistes, sinon plus. Donc, c'est difficile de comparer le racisme dans les différentes cultures. C'est très compliqué. En tout cas, je dis toujours, si vous voulez parler du racisme du Japon, je veux avoir des chiffres comparatifs avec les comportements similaires avec l'Occident. Parce qu'avant avant de jeter la pierre aux autres, regardez ce qui se passe chez nous. Évidemment, ils ne sont pas racistes envers les mêmes communautés. Hein, ils sont racistes envers les Coréens, les Thaïlandais, les Chinois, etc. Mais bon, non, ils veulent pas du tout d'immigration. En tout cas, ils veulent surtout pas que l'immigration soit durable. Et alors, comme tu dis, la natalité est en baisse. Et c'est vrai qu'ils pourraient très aisément résoudre ce problème de natalité en ouvrant à l'immigration de gens non qualifiés d'Asie du Sud-Est qui viendraient au Japon pour s'y installer durablement et travailler dans l'agriculture, etc. Mais le gouvernement fait tout pour que ça ne se passe pas. Hein. Donc, on a un gouvernement très à droite. Et donc, voilà, la pureté, le mythe de la pureté ethnique japonaise est très important. Donc, si tu fais de l'immigration et qu'il y a du mixage, après, il y a des gens qui n'auront pas le bon code génétique dans la culture, ça ne va pas aller. Quoi. Ils auront peut-être les cheveux brun clair au lieu de brun foncé, ça ne va pas. Quoi.
C'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé un pays où je pourrais passer pour un blond, ce qui est quand même extraordinaire. Rien que pour ça, ça donne envie. Quoi.
En tout cas, je pense que ça, on va arriver à la conclusion, mais je pense que ça vaut vraiment la peine que les jeunes, peut-être qui nous écoutent et qui rêvent du Japon, c'est cool qu'on ait l'occasion ici de leur donner un autre son de cloche sur la réalité japonaise. Hein. Parce qu'évidemment, ce qu'on nous vend, c'est le cool Japan, hein, le Japon cool. Hein.
Ah oui, ça.
C'est du Japon de carte postale avec des geishas et des samouraïs et des temples avec la lumière du coucher de soleil dans le tori, du coucher de soleil dans le tori. Mais il faut se demander c'est quoi la réalité du pays derrière. Hein. C'est pas forcément folichon. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est dur, c'est violent, c'est... C'est pesant parfois, c'est difficile, mais c'est tellement mignon, Agretsuko.
Ah oui,
c'est tout le Japon.
Vraiment, avant que tu clôtures, je vais quand même dire un mot sur, et après on clôturera pour de vrai, mais sur Amélie Nothomb et Stupeur et Tremblement. C'est vrai que Stupeur et Tremblement, et puis elle a écrit Ni d'Ève ni d'Adam, qui sont deux romans où elle parle de son expérience au Japon, et donc dans Stupeur et Tremblement, elle présente des situations dans les entreprises comme ça. Je voudrais quand même mettre un bémol sur ce qu'elle présente, parce que on a l'impression qu'elle présente la situation comme extrêmement défavorable à son encontre, comme on pourrait dire de l'harcèlement, etc., au travail. Mais en fait, l'astuce, c'est que je pense qu'il y a un mensonge originel dans son roman, qui est qu'elle prétend être bilingue japonaise. Alors évidemment, si elle était vraiment bilingue japonaise et qu'elle faisait pas de bourde au niveau du langage, il y a beaucoup de situations qu'elle décrit dans le livre qui sont pas très compréhensibles. Et effectivement, on se dit, mais elle est hautement qualifiée, elle parle japonais couramment, elle maîtrise super bien le Japon et elle se fait harceler comme ça, c'est inacceptable. Moi, mon impression à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, son japonais n'était pas terrible.
Scoop. Écoute, je sais pas, mais dans le livre, elle explique qu'elle est passée son enfance au Japon, il me semble, un truc comme ça.
Son enfance au Japon quelques années quand elle était en maternelle et début primaire, je pense. Et alors, elle est dans une école, elle dit qu'elle est dans une école de traductariat au moment des romans. Mais l'astuce, c'est que on a entendu parler japonais. Elle a fait un documentaire récemment, il y a 2-3 ans, où elle est retournée au Japon avec une équipe de la télévision belge qui la suivait. Bon, alors, je dis pas qu'elle est nulle en japonais. Hein. Effectivement, elle sait se débrouiller en japonais, mais il y a une différence entre savoir se débrouiller en japonais et être bilingue japonais. Être bilingue au point d'être capable de travailler dans une entreprise japonaise, ça demande, c'est pas le même niveau, tu vois. Et je pense qu'elle exagérait. Alors après, c'est une écrivaine, hein, ce sont libres droits. Je veux dire, exagérer son niveau pour le fun, ou pour la narration. Elle a jamais dit que ses romans, c'est juste des romans, quoi. Mais en fait, il y a des situations qui se comprennent beaucoup mieux dans le roman si on prend la perspective. Oui, mais en fait, finalement, elle ne parle pas si bien que ça japonais et elle fait des bourdes de langage liées à son manque de maîtrise de la langue. À ce niveau-là, je veux dire, oui, elle se débrouille dans la vie de tous les jours, mais encore une fois, travailler dans une entreprise japonaise, ce n'est pas la même chose. Il faut déjà un super niveau pour être capable de travailler dans un niveau... dans une entreprise japonaise. Enfin, par exemple, même moi, je ne suis pas sûr qu'à mon niveau, je pourrais aisément m'en sortir, je pourrais me débrouiller, mais dès là, à dire je ferais ça comme une brise sans aucun problème, ça implique de savoir lire, etc. Enfin, évidemment, je sais lire, mais ça demande de lire des documents commerciaux, etc. C'est un niveau de compétence quand même.
Oui, moi, je pense qu'il y en a plein que même en français, je n'arriverai pas à lire. Alors.
Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Et donc, une fois qu'on relit le bouquin dans ce sens-là, on se dit, ben oui, en fait, finalement, ils ont engagé une occidentale pendant un an et dans le fond, elle n'a pas le niveau de langage suffisant pour faire le travail qu'ils espéraient qu'elle fasse et elle se fait rétrograder logiquement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne la virent pas, tu vois. Finalement, ils ont une employée qui était un peu un boulet dans l'entreprise qui ne sait pas faire le travail. Mais ce qui est étonnant, c'est que, oui, chez nous, elle se fait virer, quoi. mais ils la virent pas, ils la gardent en lui donnant des travaux qui paraissent de plus en plus dénigrants à son égard. Mais dans le fond, c'est pas sympa. Enfin, on peut voir une autre perspective en disant, elle est pas compétente pour faire le travail pour lequel elle était embauchée au départ, et donc ils la rétrogradent vers des jobs moins valorisés. Mais chez nous, elle se ferait juste virer, quoi. Donc c'est juste pour donner une autre perspective sur le roman. Essayez de le lire en vous disant, en fait, finalement, elle se vante avec son niveau de japonais et son niveau n'est pas de japonais. Et ça donne une autre perspective sur les événements qui se passent dans le bouquin.
Écoute, je suis. Voilà, franchement, ça a fait ma journée. Je pense que je suis très content d'être venu, ne serait-ce que pour apprendre que, voilà, je sais pas, Amélie Nothomb a le niveau Shonen, je sais pas, Dragon Ball. En japonais, je n'aurais jamais imaginé. C'est vrai que c'est pas moi qui vais pouvoir apprécier son niveau de japonais à l'oral comme ça. Mais c'est super intéressant, du coup, effectivement, parce que bon, j'évoquais le livre que j'ai lu il y a quelques temps. Donc oui, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette perspective-là, parce que, bon, comme tout le monde, je pense que j'ai pris le livre exactement comme tout le monde. Donc voilà, bah, écoute, voilà, c'était très, 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 très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Michel, de nous avoir parlé de tout ça, de ton expérience, etc. Et c'est évidemment extrêmement utile. C'est bien au-delà de ce que j'aurais pu faire moi tout seul, bien entendu. Et ton expertise est précieuse. Bon, mais moi c'est Guillaume Poggespala. Hein. Vous me retrouvez également dans tes cafés, bien entendu, puisque ce podcast, malheureusement, va devoir se terminer. Parce que oui, c'est les meilleures choses ont une fin. Voilà, même les meilleurs épisodes ont une fin. Donc vous me retrouvez moi dans Tech Café, un podcast sur l'actu tech, et bon voilà, c'est évidemment, vous retrouvez bien entendu Jean-Michel Brassard dans ses petits scientifiques, mais peut-être pas que, parce que je pense qu'on peut te retrouver dans plein d'endroits, Jean-Michel, on peut te retrouver un petit peu partout, vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Mais d'abord, j'ai un autre podcast qui s'appelle Club JDR et qui est un podcast d'actual play de jeux de rôle, hein, pour ceux qui aiment bien. On a fait beaucoup d'appels de Cthulhu et de Donjons et Dragons, donc ceux qui veulent m'écouter dans un tout autre registre que ceux qu'on a encore évoqués aujourd'hui. Voilà, c'est un podcast, ça s'appelle donc Club JDR, et vous trouverez sur tous les agrégateurs de podcasts si vous voulez nous écouter, mes amis et moi, en train de faire des parties de jeux de rôle. Pour le reste, oui, voilà, j'ai récemment, on a commencé à uploader sur YouTube aussi Scepticisme Scientifique, donc si vous préférez être sur Scepticisme Scientifique et voir parfois nos visages plutôt que d'écouter juste l'audio de nos podcasts, vous cherchez dans YouTube Scepticisme Scientifique comme vous préférez, ou alors évidemment dans tous les agrégateurs de podcasts bien connus comme iTunes, etc.
Exactement. Et si vous, bon, si vous avez aimé donc ces podcasts, les podcasts de Jean-Michel, donc Club JDR ou bien Scepticisme Scientifique, si vous avez aimé ces podcasts et même ceux de Tech Café et bien entendu Paraculte, n'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur vos prestataires préférés, donc Apple, Podcast Addict ou que sais-je. L'important, c'est qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Parce que oui, la quantité, parfois, ça compte. Mais bon, quoi qu'il en soit, on espère vous avoir donné envie de voir Agri Tsuko. Et peut-être de relire Stupeur et Tremblement, et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode en ce qui me concerne. En tout cas, ciao à tous.
Au revoir.